Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est très intéressant, ce fragment de l'Évangile d'aujourd'hui. Je le trouve très intéressant. Je crois que vous savez tous ce qu'est un aveugle. Je crois que vous avez rencontré des aveugles pendant votre vie, dans votre vie. Et surtout un aveugle né, qui, si on parle du point de vue médical, c'est un aveugle pour toute sa vie. Donc il n'a peut-être aucune espérance que dans un jour, il verra. Aucune espérance. Jésus vient voir cet aveugle. Il lui donne la capacité de voir. Peut-être inespéré par cet aveugle né. Et les gens qui se trouvaient autour de lui, ils ne croient pas. C'est étonnant ça. Pour moi, c'est étonnant de savoir que près de toi, pendant peut-être 30 années, peut-être 20 années, c'était un homme qui ne voit pas du tout. Et dans un jour, cet homme commence à voir, et les gens qui l'entourent ne croient pas. Ils disent, après 30 années de cohabiter avec cet homme, ils disent, peut-être que c'est lui, peut-être que ce n'est pas lui, on ne sait pas, on sait ou on ne sait pas. Peut-être. Il faut l'amener aux pharisiens pour voir qu'est-ce qu'ils vont dire, ces pharisiens. Et les pharisiens, vous savez, ils étaient les grands prêtres qui coordonnaient un peu toute la vie d'une communauté juive quand Jésus est venu sur terre. Mais parfois, cet pharisien dépassait un peu la mesure, parce qu'il commençait un peu à contrôler un peu plus, il faut. Et cet aveugle né, qui maintenant il voyait, il a amené au pharisien, les pharisiens, il met le problème d'une façon presque pareille comme les gens qui l'entouraient. Il commence à demander ce qui a fait cette chose que tu es arrivé à voir maintenant. C'est qui a osé travailler dans le samedi, parce qu'il s'adresse aux aveugles, tu sais, le samedi on ne peut pas travailler. Donc, comment est-ce que Jésus, il a osé de guérir dans un jour de sabbat? C'est pas permis, ça. Peut-être il faudra attendre encore 2 jours pour le guérir. Mais Jésus, l'aveugle, il a eu une attitude, à mon avis, assez étonnante. Parce que même ses parents, quand ils ont été interrogés par les pharisiens, ils ont dit, oui, c'est notre fils, mais demandez-lui. De peur que peut-être s'ils vont dire que oui, c'est notre fils qui a été guéri par Jésus, c'était le péril d'être expulsé de la synagogue. Ce qui était une chose assez grave dans ce temps-là. Donc ils ont un peu, je ne sais pas comment s'appelle ça en français. Oui, on fait comme ça. Ils ont dit, demandez-lui. Il est assez âgé, il peut vous répondre. Et cet aveugle qui toute sa vie, il n'a jamais vu, et cet aveugle qui toute sa vie, il n'avait même pas l'espérance que dans un jour, il verra. Peut-être qu'il ne savait pas du tout c'était qui, c'est Jésus. Peut-être qu'il a entendu que c'est un prophète qui fait quelques merveilles. Il a essayé un peu de voir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Cet aveugle vient devant eux et commence à faire un témoignage comme personne n'a fait, de ce qui n'a fait pas, de ce qui était autour de lui. Même il se moque même un peu d'eux quand il dit: pourquoi est-ce que vous me demandez deux, trois fois ce qui a fait cette merveille? Peut-être que vous aussi, vous voulez devenir ces disciples. Cet aveugle était en soi-même un témoignage. En soi-même. Mais il devient aussi un témoin de Jésus. C'était un témoignage, si vous voulez, en silence. Parce qu'une merveille reste une merveille. Toutes les personnes peuvent voir qu'il était aveugle et que maintenant il n'est plus. C'est un témoignage qui est automatique, si vous voulez. Mais dans le même temps, il ne reste pas à ça. Il passe dans un autre registre. Il devient lui-même, par sa volonté, un témoin de Christ. Parce qu'il dit: oui, c'est Christ qui m'a fait ça. Oui, c'est Christ qui est intervenu dans ma vie. Et c'est lui qui m'a donné la capacité de voir, parce qu'il n'a jamais vu. Et après, le dernier fragment de cette péricope évangélique, Jésus lui demande: crois-tu au Fils de Dieu? Et voilà ici le témoignage, je dirais, maximum. Seigneur, qui est-il pour que je croie en lui? Jésus lui répondit: tu le vois, c'est lui qui te parle. Alors l'aveugle dit très franchement: je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. C'est étonnant, parce que aujourd'hui, le miracle dans nos vies, on croit que c'est presque fini, que ça n'existe pas, que ça n'existe plus, que les lois de la nature sont comme ils sont, que toutes les choses suivent un chemin très bien rangé, et que rien de sûr plus ne peut pas survenir dans notre vie. Peut-être que oui et peut-être que pas. Il y a deux dangers ici. C'est un danger qui peut nous amener à attendre toujours un merveille dans notre vie, de courir après les choses un peu étonnantes, un peu qui sont sorties de l'habituel, inhabituel, de courir, je ne sais pas, même dans le milieu théologique, on court après les choses qui ne sont pas comme il faut. Ça, c'est un danger, parce qu'on arrive à pas nous rendre compte de la normalité de la relation avec Dieu. Et quand on a cette relation avec Dieu, c'est une relation d'amour, si vous voulez, parce que c'est ça. Un amour, c'est un amour qui brûle. Dieu, c'est un feu. Je dis ça. C'est un feu, donc cet amour, c'est une relation normale. Ce n'est pas une relation paranormale, si vous voulez. Il n'y a pas de choses, je ne sais pas, je ne trouve pas le mot, de choses, vous comprenez. Non, c'est une relation normale où le merveille peut intervenir. Mais ce qui compte, tout d'abord, ce qui compte, c'est de chercher la relation de Dieu. Et si, dans cette relation, on va pouvoir surpasser sur les lois de la nature, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple, vous avez beaucoup d'exemples dans la vie des saints, quand les lois de la nature ont été surpassées, il y a des réalités par exemple, regardez les reliques du saint. Pourquoi pendant centaines d'années, il reste comme ça? C'est un dépassement de la loi naturelle, des lois naturelles. Mais ça survient d'après une vie de normalité de la relation entre ces hommes qui ont devenu saints et Dieu. Donc c'est le premier péril. Et le deuxième danger, c'est que on peut se fermer devant nos merveilles. On peut devenir un peu, comme j'ai commencé à vous dire, de croire que les lois de la nature sont bornées et que rien ne peut intervenir dans ce sens-là. Il faut laisser toujours notre âme ouverte pour le miracle, si vous voulez. Il faut laisser toujours notre âme ouverte. Le miracle peut être pas toujours quelque chose de grandiose ou je ne sais pas. Non, un miracle peut être un miracle dans nos vies. Encore, je vous dis, je n'ai pas des exemples. Chacun d'entre vous, je crois que vous pouvez sentir dans un moment donné de votre vie le miracle qui peut intervenir dans notre vie, dans une certaine manière ou d'une autre manière. Mais il faut rester ouvert à ça. Comme l'aveugle d'aujourd'hui, il a resté ouvert à cette chose qu'il ne croyait plus que ça peut intervenir dans sa vie, de voir après une vie d'être aveugle. Aussi, nous, on peut rester ouvert à la possibilité que un merveille, un miracle peut intervenir dans notre vie. Et je parlerai un peu plus spirituel ici. Pas que physiquement, parce que je crois que on est tous parfois des aveugles. Parce qu'on est, on a des aveugles physiques, on est tous parfois des aveugles spirituels. Quand, vous savez bien, quand on s'enferme, quand on ne voit pas l'empreinte de Dieu dans chaque chose autour de nous, ou en celui qui est près de nous, quand on ne voit pas l'empreinte de Dieu en toutes les choses que j'ai mentionnées, on est un peu aveugle. Et le merveille peut intervenir dans cet état d'être aveugle, et Dieu peut nous faire de revoir, il peut nous redonner le sourire, si vous voulez, de voir des choses qu'on ne peut pas imaginer dans ce état d'aveuglement. Je parlerai plus sur cet évangile parce que je voudrais vous conseiller de la lire encore une fois chez vous cette semaine. Elle se trouve dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 9. C'est presque tout le chapitre, elle est assez longue, comme vous avez vu. Et il faut méditer à ça, il faut méditer beaucoup à ça. Quand est-ce qu'on est aveugle? Quand est-ce qu'on est ouvert au miracle que Dieu nous propose? Surtout les miracles spirituels que Dieu nous propose, mais aussi les miracles physiques que Dieu nous propose. Par exemple, une sortie d'une maladie, ça peut arriver, même si du point de vue médical, un médecin peut dire que c'est fini, qu'il n'y a plus de possibilités. Mais parfois, ça arrive de sortir de cet état. Parfois, arrive. C'est un miracle à mon avis. C'est Dieu qui travaille dans ce moment-là. Donc je finirai avec l'Évangile, chapitre 9, l'Évangile selon saint Jean. Et je voudrais vous dire encore trois mots sur la liturgie. Comme on a commencé la catéchèse sur la liturgie, je voudrais vous parler aujourd'hui très vite. Je voudrais vous dire quelque chose sur l'encensement. Vous avez vu c'est quoi l'encensement, vous savez tous c'est quoi l'encensement. On a l'encenseur, l'encens, Et le prêtre fait un sort de rituel. Il commence par le Saint-Autel, en face de la table d'autel. Il fait un tour de table. C'est un symbole, ça, parce que l'encens peut symboliser, parmi les autres choses, peut symboliser notre prière qui se lève vers Dieu. Peut symboliser aussi un offrande qu'on apporte, qu'on amène à Dieu. Et le point central où il faut commencer, c'est l'autel, bien sûr. Le prêtre encense aussi le lieu qui s'appelle prothèse, où les dons sont préparés pour la liturgie. La pâme bénie est préparée pour qu'elle soit après apportée sur l'autel. Il encense là. Et ici, dans notre église, on n'a pas. Mais dans une église byzantine, il y a sur les murs, il y a des icônes dans l'autel. Et après qu'il a encensé la prothèse, il fait l'encensement de tous les saints qui sont peints sur le mur. Il arrive ici. C'est une chaise qui est utilisée par l'évêque quand il vient. Mais ce n'est pas que ça. C'est une chaise qui symbolise le trône. Ça existe aussi en français, le trône, non? Le trône de Christ. Parce qu'on sait toujours que, par exemple, quand on lit la prière pendant le Chérouvicon, on témoigne que notre évangile est fait ensemble avec les anges. Et que ici présent, que le Christ est ici présent. Donc cette chaise, c'est un symbole de trône du Christ. Peut-être un symbole de trône de dernier jugement, si vous voulez. Et ça implique un peu quelque chose. Ça implique un peu notre attitude dans l'Église. C'est pas une homélie morale, c'est que pour marquer quelque chose, donc il faut pas vous sentir. Quand on entre dans l'église, on est sorti de dehors, si vous voulez. On entre dans un lieu sacré qui nous impose quelque chose. Bon, c'est pas une grande différence. Je veux pas parler de sacré et de pas sacré. C'est pas ça. Mais ici, on témoigne que chaque liturgie, quelque chose se passe. Et si chaque liturgie, quelque chose se passe, il faut avoir une attitude un peu de. On peut commencer par respect, si vous voulez. Pourquoi pas? Imaginez-vous que vous auriez devant le Christ. C'était comment votre attitude? Et notre attitude, bon, c'est... Peut-être qu'on était... On sera, parce qu'un jour, on sera tous, on sera effrayés devant le Christ, le roi de toutes les choses. Il faut avoir ce sentiment chaque fois quand on entre dans une église. Et ici, le Christ, de manière invisible, de manière dans laquelle on ne peut pas décrire, mais il est présent ici. C'est la foi qui travaille dans ce sens-là, qui nous faut, qui nous donne cette certitude que le Christ est présent parmi nous. Donc, le chaise. Et après, le prêtre continue l'encensement avec tous les saints qui sont peints sur le mur. Ici, on n'a pas. Il revient devant l'autel. Bon, il sort, il encense les icônes qui sont devant vous. Et après, qu'est-ce qui est très important, il vous encense, vous. Pourquoi? Parce qu'on considère dans l'Église orthodoxe que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, c'est comme une icône de Dieu. On témoigne toujours qu'on est l'image de Dieu. Donc si on est l'image de Dieu, cet rituel que le prêtre l'accomplit, c'est de vous encenser. De vous encenser comme des icônes de Dieu. on vrit icône, comme on a ici une icône, nous sommes aussi des icônes de Dieu, de l'image de Dieu, parce que vous savez, dans le premier chapitre de Bible, dans la Genèse, on a lu que l'homme a été créé après l'image de Dieu. L'icône, c'est l'image de Christ incarné, c'est l'image de la deuxième personne de la, Sainte, de la Trinité incarnée. Donc comme on encense l'icône aussi, on encense l'assemblée. De nouveau, cette réalité, on est tous des icônes de Dieu, nous oblige un peu, je reviens, nous oblige un peu à avoir un peu l'attitude qu'on a devant Dieu. Ce n'est pas le cas ici, donc ce n'est pas une ennemi moral, ce n'est pas le cas, mais vous aussi, vous pouvez témoigner aux autres cette chose-là, on est l'image de Dieu, et que dans l'Église, il faut être comme ça. Mais, parce que j'ai dit à un moment donné que je ne veux pas faire la distinction entre sacré et au dehors. Notre statut d'icône de Dieu, il finit pas à la porte de l'Église. Pas du tout. Je dirais qu'il commence plus fort au dehors. C'est à chacun d'entre nous de voir comment ça commence plus fort, notre statut d'image de Dieu. Donc c'est ça que j'ai voulu vous... Peut-être que vous savez déjà ça, mais pour ceux qui ne savaient pas, c'est bon de savoir un peu c'est quoi tout ce rituel qu'on fait, chaque liturgie. Bon, il y a des différences, par exemple, dans le Vêpre, on encense toute l'Église. Dans la liturgie, le prêtre vient que jusqu'au milieu de l'église. Pourquoi? Parce que aussi, c'est une question d'architecture. Vous savez, une église byzantine, il a trois parties. L'autel, la partie centrale et la partie du fond. Et dans la liturgie, tous les fidèles sont appelés de venir dans la partie centrale de l'église. Et dans le temps primaire du christianisme, ceux qui étaient pas encore baptisés, hein, ils restaient ou au fond de l'église, dans ces parties qu'on appelle en roman pronaos, ou au dehors de l'église. Pour ça, on a gardé dans la liturgie de faire l'encensement que dans la première moitié de l'église. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous donne la vraie capacité de voir. La vraie capacité de voir. Je crois que ça, c'est la plus importante de toute notre vie. Amen.